peut mettre en parallèle la grande musique des années 60 et notamment Stockhausen, hein, non seulement parce qu'il vient de disparaître, mais également parce que finalement c'est le seul qui a tout expérimenté dans ces années-là. Et puis des jeunes créateurs qui aujourd'hui finalement sortent aussi un petit peu de la musique, et c'est le sens de ce dernier week-end dans lequel on va présenter non seulement des concerts, mais également des installations, des expériences qui sont vraiment aux marges de la musique. Dans le cadre de Cécile Guigny qui présente un travail sur INSI, finalement, elle passe complètement du côté musical, et c'est l'appréhension par quelqu'un qui n'est pas musicien d'une grande pièce du répertoire et qui fait quelque chose auquel aucun musicien n'a pensé avant elle. Donc c'est vraiment là où on sent qu'elle apporte quelque chose, à savoir pouvoir rendre cette œuvre accessible à tous. Et c'est pour ça qu'on a tous les jours des concerts donnés par le public lui-même, qui vient travailler, répéter avec ses instruments, et qui donne ça ensuite en exécution.
Vous me tendez une perche, on va poursuivre précisément avec cette pièce INSI, installation de Cécile Guigny autour de cette œuvre de Terry Riley composée en 1964. Pour décrire en deux mots cette œuvre, c'est une œuvre en do majeur, résolument en do majeur, qui procède par cellules, 53 petits motifs mélodiques que chaque interprète répète à sa guise tout en respectant le jeu des autres et les quelques instructions de la partition. Ce qui a donné l'idée à la plasticienne française Cécile Guigny de construire une série de pupitres robotisés permettant donc aux non-musiciens de lancer ces séquences d'un geste de la main et ainsi de participer au concert du soir. Hier matin, j'ai pu assister à une de ces répétitions, un petit peu spéciale puisque ici, c'était des enfants qui s'essayaient à cette musique minimale. Je vous propose de découvrir tout de suite cette œuvre en compagnie de Cécile Guigny.
Alors chaque pupitre, là j'en ai 15, est assigné à un seul instrument. Donc on a enregistré des musiciens et on a découpé chacune des séquences mélodiques pour les introduire dans un programme qui est géré par Max MSP, qui redistribue en fait les cellules à chacun des pupitres. L'esthétique s'éloigne le plus possible d'un sampleur ou d'un instrument que l'on pourrait reconnaître, et l'esthétique devait s'intégrer à un ensemble classique. Donc ça n'a pas l'air trop de la haute technologie en même temps. Et elle est toute masquée à l'intérieur de ce tube. Donc je passe la main en fait sur le tube, j'ai un capteur de distance. Et là, on entend un piano qui est assigné à un pupitre sur la cellule 1.
Donc plus vous levez la main de ce tube et plus le son est fort, c'est un peu la technique du thérémine en fait.
En fait, c'est un simple capteur de distance qui est ce que vous retrouvez sur les magnétoscopes. Et qui va gérer donc la hauteur, c'est un infrarouge qui tape sur votre main et qui redescend et qui analyse en fait la hauteur.
Ok, on continue à le lire jusqu'à la fin, ok? Par contre, on s'arrêtera sur la 34, d'accord?
Et ensuite, pour passer d'une cellule à l'autre, vous avez une petite commande sur ce tube, ce qui fait que chaque musicien peut avancer comme ça. Ah, ben voilà, c'est ma main qui fait partir la cellule. Et puis, vous avez reproduit la partition, ces 53 cellules de Terry Riley, avec une petite lumière qui va passer d'une cellule à l'autre. Ça, c'est presque robotisé, enfin, technologiquement, c'est assez impressionnant. C'était nécessaire d'avoir quand même cette partition réelle devant les yeux des musiciens.
Ah oui, parce qu'il fallait à chaque moment penser que c'est un non-musicien qui allait jouer. Donc il fallait qu'on puisse ne pas savoir lire la musique et savoir se repérer à l'intérieur des 53 cellules mélodiques. Donc là, ce sont les chiffres qui sont mis en valeur. Et donc c'est une petite lumière qui indique sur quel chiffre on se place. Finalement, le programme est une transcription des indications pour la performance de la pièce. C'est vraiment un hommage à l'écriture de cette pièce qui, depuis 1964, est jouée dans le monde entier, se régénère sans cesse et résiste même à cette translation-ci. En fait, je voulais mettre à jour quelque chose qui a perduré, qui s'adresse aux musiciens, et là, faire comprendre un processus qui n'est pas très très bien compris aux non-musiciens. Donc la meilleure façon pour ça, c'était de créer ce système.